Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juillet 2009 et c'est l'épisode numéro 13. Ta-ta-ta. Ouais, donc je faisais tintintin parce que 13, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver ? Bon, bonjour à tous, je suis Patrick Béja et donc vous êtes sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où blablabla, on parle tech, gadget, internet, vous connaissez. Aujourd'hui, on va parler Google OS qui va certainement être une révolution, mais on n'en sait rien du tout encore. Blu-ray, Facebook, Twitter hacké, etc., etc. Et je me dépêche parce que je veux présenter mes deux invités exceptionnels qui sont d'une part Corben qui nous fait la gentillesse de revenir parmi nous. Tu vas bien, Corben ?
Ouais, bonsoir, ouais, ça roule.
T'as été dans l'actualité cette semaine, je t'avais demandé d'être dans l'émission juste un petit peu avant, j'ai eu du flair parce que tu vas avoir des choses à dire, je pense.
On verra.
J'espère. Et on a aussi Loïc Lemeur, blogueur émérite et expatrié de son état américain. Comment vas-tu, Loïc ?
Ça va très bien, Patrick, merci de m'avoir invité.
Mais merci à toi d'être là, c'est très sympathique de ta part. Avant qu'on se lance dans les histoires du jour, je vais quand même te donner l'opportunité, Loïc, de parler un petit peu de ce que tu fais et pourquoi les gens pourraient te connaître. Parce que comme je sais que tu n'as pas forcément énormément de temps, tu risques de partir avant la fin de l'émission. Donc faisons ça tout de suite.
Alors, écoute, j'ai une bonne heure devant moi, donc ça devrait aller. Je vais faire au mieux, mais... Écoute, je commence, je ne sais pas trop par où commencer, j'ai créé il y a un an et demi une entreprise ici à San Francisco qui s'appelle Sismic, qui a démarré en se concentrant sur la vidéo, et malheureusement la croissance n'a pas été aussi forte que je le pensais sur ce terrain-là, et du coup nous sommes devenus une des applications Twitter et maintenant Facebook les plus populaires, puisqu'on représente à peu près 7% de tous les tweets envoyés sur Twitter. Et 2 millions de téléchargements de Sismic Desktop. On vient de lancer la semaine prochaine Sismic Web, qui permet de faire la même chose sur le web, c'est-à-dire gérer votre communauté à la fois sur Twitter et Facebook. 4 millions de calls sur l'API de Facebook par jour. Enfin, ça marche très très bien. Voilà, ouais, ça décolle très fort.
L'interface web a été accueillie, bah d'ailleurs comme l'interface, le logiciel indépendant aussi, Sismic Web et Sismic Desktop. Et d'ailleurs, c'était la team Sismic qui était derrière Twirl, qui était un excellent logiciel aussi à l'époque.
Oui, oui, Twirl nous a rejoint, Marco Kaiser, son créateur, une personne, nous a rejoint il y a un an et demi maintenant. Mmh. Et depuis fait partie, mais maintenant un des leads, comme on dit ici, sur Sismic. Et c'est vrai que les deux ont un très très beau départ. On a, pour te donner une idée, 65% de reconnexion sur le Sismic Web, de visites, c'est incroyable comment j'ai du mal, de recurring visits, donc de visites qui reviennent d'un jour sur l'autre.
T'inquiète pas, on a l'habitude, généralement, il y a Jeff voilà, Clavier qui est sur l'émission.
Tu peux pas imaginer comment 2 ans tu peux avoir ton cerveau pollué quand tu travailles toute la journée dans une autre langue. Mais donc voilà, des gens qui reviennent. Et qui ont bookmarké le site, qui s'en servent. Certains en ont fait leur homepage quand ils sont vraiment accros de Twitter. Donc on est très très enthousiaste et on a une très forte croissance. Voilà, donc ça prend tout mon temps.
J'en profite donc pour te poser la question puisque t'es là. Du coup, Sismic passe un petit peu, la version d'origine de Sismic qui était une sorte de Twitter en vidéo en fait, passe un petit peu à l'as.
Bah, écoute, elle est toujours disponible sur vidéo.sismic.com avec une activité qui est relativement limitée. On va réintégrer tout ce qu'on a fait, toute notre plateforme vidéo à l'intérieur de Sismic Desktop et Sismic Web. L'intérêt, c'est de capitaliser sur tout le travail qu'on a fait en intégrant la vidéo, mais sans faire de la vidéo le centre. Ça a été une D'accord. des un des paris que j'avais fait, tu sais, ça s'appelle l'entrepreneuriat. Tu essaies des choses et des fois ça marche et des fois c'est trop tôt. Et là, je pense que c'est beaucoup trop tôt par rapport à... c'est pas un problème technologique, c'est-à-dire que les gens sont pas particulièrement prêts à échanger en vidéo et à se montrer. Ah, ils sont
que,
timides.
Voilà. Peut-être que l'iPhone 3GS changera un petit peu les habitudes
je,
avec
je
sa
crois
magnifique.
Pas. Je non. crois pas du tout. Non, je pense que ça va augmenter le nombre de vidéos postées sur YouTube, ce qui est déjà le cas, mais que ça ne va pas lancer cette. Moi, j'avais en tête une idée un peu folle qui était de créer un talk-show planétaire en vidéo, et je pense que ça va arriver, parce que je vois pas pourquoi les conversations passionnantes qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et sur les forums n'arriveraient qu'en texte. Mais je pense que j'étais probablement 3-5 ans trop tôt. Donc en attendant, je me concentre sur quelque chose qui a une croissance très très forte, dans laquelle on va mettre de la vidéo, mais de manière très très simple. Ouais. Et je vais là où est la conversation, sur Twitter et sur Facebook en ce moment.
À vrai dire, ma deuxième question à laquelle tu pourras peut-être pas répondre serait comment, parce que monétiser Sismic, je vois très bien, monétiser un client Twitter, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, est-ce que vous avez, enfin, j'imagine bien que tu fais pas les choses dans le noir, mais tu peux en parler ou c'est trop tôt?
C'est pas un client Twitter. La vision, c'est pas un client Twitter. Ça ouais. a commencé avec un client Twitter. Il se trouve que c'est là où on a le plus de croissance, puisqu'on a 7% de tous les tweets envoyés dans le monde. Mais la vision, c'est vraiment de faire ce que énormément de gens ont besoin aujourd'hui, c'est-à-dire gérer leur communauté sur Internet. C'est ouais. ça la vision. Et c'est ce que moi je fais des heures et des heures chaque jour avec une représentation physique qui est le web, par exemple. C'est une partie de ma communauté qui, mais pas uniquement bien sûr, mais une grande partie qui se rejoint tous les ans à Paris, comme vous le savez. Mais au-delà du marketing, du courrier électronique, du mail marketing, tous les outils, j'ai envie de dire presque du passé, pour promouvoir soit une personne, soit une marque, sont en train, à mon avis, de devenir beaucoup moins importants que d'avoir une communauté autour de soi. C'est-à-dire ouais. que ça marche au point de vue individuel. Si tu cherches un boulot, les premières personnes qui vont t'aider, ce sont tes amis, les gens avec lesquels tu interagis, que ce soit online, via LinkedIn et autres, ou offline. Eh bien, pour une marque, c'est la même chose. On voit les marques ici comme Dell ou comme Ford qui utilisent très très bien ces outils-là, se retrouvent avec une vraie communauté autour d'eux. C'est beaucoup plus important que des coups d'épée dans l'eau, souvent oui. de marketing. Sismic a 52 000 membres de ce qu'on appelle Team Sismic, qui nous aident à construire les produits en permanence. Et ce sont ces 52 000 membres qui nous aident à faire connaître l'entreprise. Il y a absolument zéro marketing, c'est que du bouche à oreille. Et en fait, ce que je suis en train de créer, pour être bref quand même, c'est, j'espère, l'outil ultime qui va permettre aux gens de créer, de manager, de gérer leur communauté. Ça démarre avec Twitter. On a été le premier à rajouter la streaming API de Facebook, qui nous permet non seulement d'updater Facebook, mais aussi de lire les commentaires, de commenter, de faire des likes sur Facebook. On va l'intégrer d'ailleurs dans Sismic Web dans pas longtemps. Et ensuite, on va intégrer LinkedIn, tous les grands réseaux sociaux les uns après les autres. Ouais. Et je suis très, très enthousiaste à ce positionnement-là parce que, pour répondre à ta question, j'en aurais fini là-dessus, les marques ont besoin de ça. Et s'en servent déjà énormément, et donc on va avoir tout simplement une version plus élaborée qui sera payante, tout en restant une grande majorité gratuite pour avoir, j'espère, des millions d'utilisateurs.
D'accord, bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Je vais pas transformer cette émission en interview non plus de Loïc, donc on va parler de l'actualité immédiatement, en commençant par Google OS. Et Google OS, alors, qu'est-ce que c'est? C'est un truc, c'est une nouvelle qui a pris un petit peu le net par surprise. Il y a une semaine et demie environ, c'est l'annonce qu'a fait Google qu'ils allaient développer un système d'exploitation qui ferait concurrence, en quelque sorte, aux systèmes d'exploitation les plus connus, comme Windows ou macOS, et qu'il serait disponible en 2010, et qu'il commencerait avec les netbooks, dans un premier temps, donc pour petits portables très légers, mais qu'ils iraient ensuite à la conquête du reste du marché. Donc votre ordinateur, sur votre bureau aujourd'hui, pourrait faire tourner Google OS à la place de Windows d'ici un ou deux ans. le point principal de ce système d'exploitation, ça serait qu'il vous permettrait très facilement d'aller sur le web et que les applications, les logiciels, comme Office ou ce genre de choses, ils auraient des équivalents sur le web et donc plus vraiment de logiciels traditionnels que vous achetez et que vous installez sur votre disque dur, comme on le fait depuis bien longtemps maintenant. Il y a beaucoup de questions qui restent encore à propos de cet OS, c'est-à-dire le prix, la compatibilité, etc. On sait qu'il aura un noyau Linux, donc il aura déjà une certaine compatibilité, puisque Linux est déjà assez répandu, et Corben ne me contredira pas là-dessus. Mais il y a quand même énormément d'inconnus. Et on a tout entendu à propos de ce truc, de la révolution à venir à le non-événement, et beaucoup de gens se sont contredits là-dessus. Alors, avec votre expertise tous les deux, peut-être Corben, puisque tu es resté bien sage et silencieux, toi qui es un grand défenseur de Linux, tu crois que c'est une opportunité? Ça va faire quoi? C'est un coup d'épée dans l'eau? C'est quoi ça?
Ah, je sais pas encore, parce que de toute façon personne ne l'a vu, c'est le gros mystère. Il y a eu des fausses captures écran qui ont traîné, mais à part ça on n'en sait rien. Non, mais moi je pense que ça va être un petit OS sympa, un peu, enfin, qui s'oriente, je pense, principalement pour les netbooks, hein, un peu comme ce qu'est en train de faire Tariq Krim avec Joli Cloud. Donc je pense que ce que veut faire Google, c'est surtout un espèce d'OS in the cloud, comme disent les Américains, et avec le truc où tu as tout sur Internet, en fait, où tu as plus rien.
Mais est-ce que ça va fonctionner? Ça va remplacer Windows? Enfin bon, je dis n'importe quoi, hein, mais.
Franchement, je ne pense pas, parce que en fait, le problème, la faille au niveau de Linux, c'est les jeux. Hein. Faut pas chercher, il n'y a pas de jeux. Donc, il y a des jeux, mais c'est assez limité. Donc, pour les gens qui bossent, qui font, je sais pas, de la bureautique, qui font Internet, pour le business, etc., ça peut être sympa. Mais pour le grand public, je pense que Windows a encore de beaux jours devant lui.
Ouais. Disons qu'ils font le pari que tout arrive sur le web, y compris des services de jeux comme ceux dont on a parlé ici plusieurs fois, comme OnLive et ce genre de choses. Avec ce genre de...
Ouais. Non, mais je pense que ça va être sympa pour ton netbook, pour les gens qui aiment bien pas se prendre la tête, etc. Mais après, pour des gens chez eux avec une vraie machine qui veulent jouer, qui veulent regarder des DVD, qui veulent faire tout ce que tu fais avec un ordinateur classique, ça va être un peu plus limité, quoi.
D'accord. Loïc, toi, vu de là-bas, ça te semble un petit peu plus gros? Parce que je suis un petit peu limite déçu, parce que moi je suis très enthousiaste quand Google annonce quelque chose, et là Corben me coule un petit peu
mon bateau.
Non, mais moi aussi je suis
vachement enthousiaste. J'ai qu'une hâte, c'est de le tester. Je l'installerai sûrement pour jouer avec, mais je pense que c'est pas la peine de trop s'enflammer. Ça va être un beau produit, mais après au niveau adoption, je rêve pas non plus, quoi.
Bon, Loïc, dis-moi que ça va être la révolution du monde.
Moi j'ai appris, je vais probablement te décevoir aussi, mais à rester froid sur les annonces en grande pompe de grands acteurs du marché, notamment parfois de Google. Souviens-toi, il y a quelques années, ou il y a un an, il y a eu Open Social, où tout le monde a dit ça y est, c'est la révolution dans les réseaux sociaux, Google qui débarque. Et en réalité, il y a vraiment que MySpace qui s'en sert. Un petit peu hors cut parce que c'est le leur, mais l'adoption n'a pas du tout été ce qui avait été promis, et moi j'avais mis quelques ressources dessus et j'aurais mieux fait de ne pas le faire. En même temps, il y a énormément de choses qui marchent, mais juste en préambule, j'essaie de faire très attention. C'est un peu comme Google Wave, tu sais finalement pas, même si là on peut voir déjà beaucoup plus le produit, mais il faut faire attention aux effets d'annonce. Évidemment, à chaque fois que Google annonce quelque chose, c'est forcément grand.
Ah, moi, je bois leur élixir à tous les coups. Google Wave, je vois ça comme l'avenir du web maintenant. Il n'y aura plus que ça dans quelques années. Mais pardon, continue, Loïc.
Non, mais je suis d'accord. Mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'est Google que le produit est adopté par des millions de gens par la suite. Et Open Social en est une preuve, et donc moi je change pas à chaque fois ce que je fais dans mon entreprise systématiquement, et je crois qu'il faut quand même faire attention à ça. Il y a beaucoup d'effets d'annonce. Maintenant, je crois que c'est une bonne chose. C'est vrai que on vit tous de plus en plus dans le cloud, et l'idée de dire finalement tout ce qui n'est pas dans le navigateur web présente assez peu d'intérêt, fait du sens, je pense, sur un netbook. C'est vrai qu'il y a, Tariq avec Jolie Cloud qui vient de lever. Il y a, moi, j'ai tweeté à propos de Tariq qu'il avait les boules en titane. Parce que, aller concurrencer Microsoft et Google, il faut quand même y aller. Et je dis ça de manière très positive parce que, je trouve que ça se respecte. Qu'un entrepreneur français lève quelques millions et il savait pas encore qu'il allait avoir Google comme concurrent, mais en tout cas Microsoft certainement. Il y a aussi Nokia et Intel qui ont formé une alliance pour créer eux aussi leur OS sur Netbook. Voilà. Donc je pense qu'on va voir. Moi je suis assez enthousiaste. J'aime bien l'idée d'avoir un OS Lite, mais je suis pas persuadé que Microsoft reste étranger à ça, puisqu'on l'a vu, il y a eu pas mal d'annonces aussi la semaine dernière.
Oui, ça, disons qu'avec toute l'activité qu'il y a, c'est clair, il est clair qu'il se passe des choses dans ce domaine, et bon, les choses sont en train d'évoluer, il y a un intérêt évidemment. Moi, l'une des raisons pour lesquelles je suis vraiment séduit, pas forcément convaincu par l'annonce immédiatement, mais une raison pour laquelle j'y porte un intérêt plus particulier, c'est que je suis tout à fait séduit par les autres applications de Google, je veux dire, tout ce qui est Google Apps, Google Mail, Google Calendar, tout ça, c'est en train de changer ma vie depuis que je m'y suis mis. Et je me dis, il y a peut-être quelque chose. Bon, il est évident que Google fait les choses bien, et autant il y a certaines choses qui ne réussissent pas, autant il y en a d'autres qui réussissent très très bien. Donc il faudra y prêter attention.
Comme Gmail par exemple, c'est qu'il y a une vraie réussite que j'utilise tous les jours. Il faut faire attention à ne pas faire traîner ses mots de passe, on va en reparler, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que moi j'essaie de plus du tout avoir de fichiers sur mon ordinateur. En fait, dès que j'ai quelque chose que je souhaite garder, je le balance sur Gmail, comme ça je sais ou sur Google Docs. Et c'est vrai que ça fait énormément de sens. Quand on voit la manière avec laquelle ils ont réalisé les applications Gmail sur les différents téléphones mobiles, qu'on essaye Gmail sur un iPhone, sur un BlackBerry ou sur d'autres, ou sur un Nokia, on a une expérience qui est assez similaire et qui est plutôt très très bonne. Moi je m'attends à quelque chose de très 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 qui marche en fait.
Je
crois que ça va être intéressant.
Ouais. D'ailleurs, à propos de ces applications, une petite info, c'est qu'elles sont enfin sorties de bêta. Ce qui était une grosse annonce. Bon, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles elles sont sorties de bêta. Gmail n'est plus bêta. L'une des raisons, c'était que par rapport aux entreprises, peut-être que ça faisait pas très très sérieux d'avoir encore le label bêta sur les applications. Mais ne vous inquiétez pas, nostalgiques de Gmail bêta et de Google Apps bêta, vous avez une option dans les options de Gmail pour remettre le petit label bêta quand même,
même s'il n'est plus en bêta.
Écoute, c'est mignon. Et comme le disait Loïc, il y a aussi une autre annonce qui est celle de Office 2010, donc évidemment le produit de bureautique de Microsoft. Ils ont annoncé qu'il y aurait une composante web gratuite, donc qui vient concurrencer là encore Google Apps. Donc encore une fois, une preuve de plus, s'il en était besoin, que cette partie du marché est en train de bouger et il faut garder un œil dessus, quoi. Ensuite, la grosse histoire de cette dernière semaine sur le web dans le domaine de la technologie, c'était la fameuse histoire du hacking de Twitter. Donc, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais un hacker français ou francophone en tout cas, a réussi par différents moyens à obtenir tout un tas d'informations sur Twitter et même des documents extrêmement sensibles qui appartenaient à Twitter en s'insérant sur leur serveur. Il y avait des trucs confidentiels, des conversations, des notes de réunion, enfin tout un tas de choses. Il a récupéré tout ça et il a envoyé, je crois, à seulement deux blogueurs. Hein. Il y avait Mike Harrington de TechCrunch, qui est un blog anglophone, et Corben, qui est parmi nous aujourd'hui. Et ça a fait une énorme controverse. Et peut-être que je vais demander, avant de donner la parole à Corben, la grosse controverse, en fait, c'était, est-ce qu'on a le droit de publier ces documents ou pas ? Corben a été beaucoup plus mesuré dans la manière dont il a publié les choses. TechCrunch, ils y sont allés un petit peu fort. Loïc, qu'est-ce que t'en penses, toi ? En tant qu'entrepreneur, toi, t'es de l'autre côté de la barrière. Qu'est-ce que tu penses de la manière dont ça s'est passé, toute cette histoire ?
C'est un peu délicat parce que les deux sont des amis. Michael Harrington vient tous les ans au web et c'est un ami, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et les deux créateurs de Twitter pour lesquels je me sens, ou les trois créateurs, Jack aussi, mais pour lesquels je me sens, dont je me sens très proche, je leur parle plusieurs fois par semaine. En tant qu'entre, là j'ai plus ma casquette d'entrepreneur, c'est difficile de pas se sentir concerné parce que ça peut vous arriver demain matin. Ouais. Et sincèrement, me retrouver avec ma boîte mail dans TechCrunch, c'est pas une idée qui me motive énormément.
C'est sûr, ça se comprend, oui.
Donc j'avoue que j'ai eu plutôt tendance à avoir de la sympathie pour Eve et Biz dans cette affaire-là. Et donc, j'ai Twitter. Trouvé, j'ai, de, voilà, des deux créateurs de Twitter. Et j'ai trouvé que, dans la mesure où ce sont des documents volés, je pense qu'il y a un problème éthique. Après, il y a le premier amendement, il y a toute une série de... Mike Harrington est un avocat lui-même, donc je pense qu'il sait très très bien ce qu'il sait, ce qu'il fait, pardon, lorsqu'il publie ce genre de documents. Mais après,
bah, voilà, en fait,
le fait d'avoir un scoop, c'est une chose. Utiliser des documents volés dans le dos d'un entrepreneur qui, sincèrement, fait la plus belle entreprise en ce moment sur le marché... et tout balancer, c'est moi j'ai un peu un problème avec ça. J'ai pris d'ailleurs beaucoup de soin à pas m'exprimer du tout en anglais là-dessus parce que je suis un peu entre les deux.
Mais c'est
effrayant. En tout cas, ça nous rappelle de changer nos mots de passe régulièrement et de faire très attention parce que c'est une catastrophe. On voit ce qui a été publié par TechCrunch, quand les commentaires des créateurs qui disent pourquoi on discute avec Microsoft par exemple, ou le fait qu'ils ont aidé un concurrent de TweetPic qui est PhotoBucket, c'est des choses qui sont vraiment vraiment limites, quoi.
Qui sont très confidentielles. En fait, l'argument que... Pardon, je te coupe.
Non, vas-y.
Le gros argument, en fait, pour sortir un petit peu du monde tech, je pense que les gens risquent de voir ça et se dire, oui, bon, on s'en fout, Twitter, TechCrunch, enfin, encore, si vous pensez ça, peut-être que c'est pas la bonne émission à écouter, mais disons que ça a une portée un petit peu plus large que ça, parce que ça parle de la liberté de la presse et même du devoir de la presse, parce que, certes, ce sont des documents volés, mais le parallèle que tout le monde fait immédiatement, c'est avec le Watergate. Alors, les documents qui ont permis d'incriminer l'administration américaine dans le Watergate, si on applique le même raisonnement que par rapport à Twitter, on va dire, bon, oui, ce sont des documents qu'on a obtenus de manière un petit peu limite, est-ce qu'on a le droit de les publier, est-ce qu'on n'a pas le droit de les publier ? L'autre chose qui revient immédiatement en contre-argument, c'est le fait que Twitter n'est pas le Watergate et il n'avait pas forcément besoin de publier ces choses-là. On a l'impression qu'il s'agit, dans le cas de TechCrunch, d'un moyen un petit peu facile d'obtenir beaucoup de publicité rapidement. Et ceci dit, ça n'a pas raté. Corben, alors toi, tu as reçu ces documents aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Tu t'es réveillé un jour et il y avait dans ta boîte mail tous les documents de...
Moi, j'étais dans les bois. J'étais dans la forêt et j'ai regardé mes mails et j'ai vu... Le mec m'a contacté, c'était lundi, donc une journée avant TechCrunch. Il m'a envoyé tout ça, je savais pas du tout ce que c'était. Et quand je suis rentré chez moi, bon, bah, j'ai vu ce que c'était. Et bah oui, enfin, il y avait vraiment tout, donc j'étais un peu mal pour Twitter dans le sens où voilà, c'était dans la nature. Après, effectivement, il y a ce côté un peu scoop auquel j'avoue j'ai succombé, mais j'ai pris du temps, quoi. J'ai regardé déjà tous les docs un par un. J'ai fait du tri, j'ai regardé, j'ai mis quelques captures écran, mais j'ai vraiment tout flouté. J'ai fait super gaffe. Enfin, j'ai rien lâché de qui était pas déjà connu. J'ai vraiment rien mis, tu vois, pour faire du tort à Twitter. Et surtout, j'ai contacté Evan Williams pour lui dire. Bon ben voilà, j'ai publié un truc, j'ai pas contacté avant, j'ai contacté deux secondes après avoir posté mon article et je lui ai dit j'ai publié un truc, si tu veux que j'enlève des choses, voilà, dis-le moi. Il m'a répondu en me disant merci de m'avoir prévenu et il m'a rien demandé d'autre. Donc bon, moi je
Là, là où l'approche est un petit peu différente effectivement, c'est que t'as pas publié d'informations. TechCrunch, ils ont publié énormément de choses, toi t'as publié assez peu de choses et...
J'ai parlé par exemple de l'émission télé, des choses comme ça, mais c'était des trucs qui étaient déjà connu, tu vois, j'ai pas donné le nom de l'émission, j'ai même les logos sur les casquettes et les t-shirts pour pas qu'on leur vole, je les ai floutés, enfin j'ai vraiment vraiment tout masqué, quoi. Il y avait rien, moi l'information entre guillemets, parce que bon, se faire pirater c'est pas non plus une vraie info, hein, je le reconnais, mais l'information que j'en ai enfin que j'ai publié, c'était en gros dire bah voilà, Twitter s'est piraté, le pirate il était super loin, il a volé ci, il a volé ça. En gros, faites gaffe quand vous mettez des fichiers sur internet, dans vos boîtes mail, etc. C'est jamais à l'abri, surtout pour des entreprises quoi. Là le mec avait carrément les accès DNS, donc il pouvait, s'il voulait, rediriger twitter.com vers ce qu'il voulait. Donc ça a vraiment été super loin. Donc
Peux nous dire comment il a obtenu toutes ces informations? Tu me racontais un petit peu en préparant l'émission, c'était un truc vraiment idiot quoi.
J'ai pas tous les détails parce qu'on n'a pas beaucoup échangé non plus, mais il a chopé un mot de passe, je crois, sur Yahoo Mail ou sur Gmail, je sais plus, de l'origine d'un des employés de Twitter, juste en répondant à une question secrète, tu sais, la petite question que tu tapes, genre quel est le nom de jeune fille de ma mère ou le nom de mon animal de compagnie préféré, etc. Donc c'était le chien de je sais plus qui. Il a trouvé la réponse, hein, parce que bon, en général, ton animal de compagnie, tu le cache pas trop son nom quand t'as une vie sur internet et que tu parles un peu de toi. Donc
genre Wikipédia, il a trouvé le nom de l'animal de compagnie et voilà quoi.
Voilà, c'est ça. Et bon, il est remonté comme ça, de boîte en boîte, petit à petit, parce que le gars utilisait le même mot de passe ensuite pour sa boîte pro Twitter, etc. Enfin bref. Et du coup, bah, il a réussi à obtenir tout de la boîte de la femme de Evan Williams, enfin la totale quoi, vraiment tout. Alors, iTunes, PayPal, enfin Amazon, tout quoi.
Là, donc, c'est un cas qui est un petit peu facile de condamner parce qu'effectivement, il n'y avait pas d'informations vitales et pas d'informations vraiment, j'irais même jusqu'à dire en anglais newsworthy, c'est-à-dire qui était vraiment, qui valait au-delà du fait que Twitter s'était fait pirater, il n'y avait pas d'informations qu'ils ont récupérées qui valaient un vrai scoop. Mais imaginons.
Il y a des trucs, enfin ça je l'ai dit, hein, c'est pas un secret, mais il y a quand même des clauses de non-divulgation, il y avait des numéros de carte bleue,
bien sûr, mais là où
il y avait quand même tout le business plan, tout le business plan de Twitter avec la manière dont ils allaient générer des revenus,
il y avait des comptes rendus de réunion, exact.
Alors vous en l'occurrence, bon Corben, toi t'es dans ce cas-là, mais Loïc, toi, parce que t'es aussi un blogueur émérite, est-ce que tu peux imaginer, c'est difficile parce que tu les connais tous ces gars-là, mais est-ce que tu peux imaginer comment t'aurais réagi toi si t'avais reçu toutes ces infos?
Alors moi j'aurais rien publié du tout. Moi je fais pas c'est pas mon métier, je blogue par plaisir et j'en profite pour m'excuser vis-à-vis de pas mal de... Je blogue plus en anglais maintenant qu'en français. Mon blog français, pour ainsi dire, bon, pas loin d'être mort.
Ok, imaginons un truc un peu plus.
Jamais j'aurais balancé ça. Je pense que TechCrunch l'a fait parce que...
C'est un coup de pub pour TechCrunch, c'est évident.
Non, mais c'est leur boulot. TechCrunch, leur boulot, c'est de si tu voyais à quel point ils sont extrêmes ici, c'est-à-dire que si une start-up annonce une actu... sans leur donner l'exclu ou sans leur donner avant, souvent ils font l'impasse. Et donc il faut avoir réussi à avoir une certaine notoriété ici pour négocier de pouvoir donner l'actu à plusieurs sources comme Mashable ou comme ReadWriteWeb ou d'autres.
ReadWriteWeb, tout ça.
Et donc ils sont vraiment... c'est leur boulot. Donc moi, ça ne m'a pas étonné qu'ils le fassent. Maintenant, peut-être qu'il... Je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin que ça. Apparemment, il n'a pas encore tout dit. Moi, j'étais très surpris parce que les réactions sur le web ont été très négatives, notamment un de mes investisseurs, Pierre Omidyar, qui est le créateur d'eBay, qui a tweeté contre ce qui s'est passé. Et c'est assez marrant parce qu'ils se sont parlé au téléphone et Pierre a eu l'air convaincu puisqu'il a posté un autre tweet en disant il y a plein de choses que vous ne savez pas, dans la relation avec TechCrunch, soudez pas du tout dans le contre Twitter. Donc j'ai hâte de voir. Apparemment, on n'a pas encore tout sur cette affaire-là. Mais d'accord. Je pense qu'un professionnel de l'actu aurait balancé ça aussi. Et je pense que TechCrunch a fait son boulot, on ne peut pas leur en vouloir là-dessus. Maintenant, la question, c'est dans la mesure où les documents étaient volés. Je pense que c'est plus ça le
Alors imaginons
Twitter, autre grande voix ici, on a profité pour taper sur Harrington tout ce qu'elle pouvait en disant que c'était une honte, juste sur ce point-là, que c'était pas du tout du journalisme parce que c'était volé. Et quand c'est volé, ben ça doit rester secret.
Question ludique pour terminer ce sujet précisément. Si vous avez des images du prochain produit Apple, on va parler de la tablette d'ici quelques minutes. Vous avez des images du prochain produit Apple 3 mois avant sa sortie. Vous publiez ou pas ?
Oh bah oui.
Loïc.
Ouais, c'est vrai. C'est, non, mais c'est, tu touches le point de quelle est la limite.
Ouais.
Moi, je pense que dans ce cas-là, j'étais vraiment dans la position de l'entrepreneur.
Ouais.
Et je peux pas m'empêcher de me dire si ça m'arrivait à moi, j'aimerais bien que quelqu'un me prévienne, comme l'a fait Corben, qui balance pas tout comme un sagouin. Voilà. Parce que je sais pas, tu t'arrêtes où dans ce cas-là? Tu vas parler des relations amoureuses de Ivan dans le dos de sa femme? J'en sais rien, tu vois. Jusqu'où tu vas?
Ouais.
Non, là, on tombe dans l'horreur absolue. Donc, je sais pas jusqu'où tu vas. C'est ça la question. Et moi, dans la mesure où je me mets plutôt à leur place, je vais beaucoup moins loin.
Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas réussir à répondre à la question aujourd'hui, mais au moins on a fait un petit peu d'éclairage là-dessus. On va passer plus rapidement sur les nouvelles suivantes. Premier lecteur Blu-ray à moins de $100 aux États-Unis, chez Walmart. Il y a un lecteur Blu-ray dont les Blu-ray ont été un petit peu lents. C'est un lecteur Magnavox, donc qui est pas vraiment une marque stellaire, chez Walmart, qui est connu pour être un loss leader, donc pour faire de la vente à perte pas vraiment de la vente à perte, mais en tout cas pour attirer des clients chez eux pour ensuite leur vendre d'autres choses. Mais il n'empêche, c'est quand même le premier lecteur Blu-ray à moins de $100. Alors, à votre avis, c'est le départ du Blu-ray ou c'est trop tard de toute façon, maintenant tout se fait en ligne?
J'en sais rien, moi j'y connais rien. Je regarde que des DivX, je suis désolé.
Donc le Blu-ray, ça répond un petit peu à la question d'une certaine manière. Ça veut dire que le Blu-ray, pour toi, tu t'en fous quoi.
Ouais, complètement. Je déconne sur les DivX, mais j'ai même pas. Tu vois, moi j'ai une grosse télé qui fait autant de largeur que d'épaisseur. Enfin, j'ai même pas un écran HD. Je regarde quasiment pas la télé. Je regarde les films. Je vais au cinéma de temps en temps, mais je suis pas. Voilà.
D'accord.
Je m'en fiche en fait.
Bon, tu passes ton temps sur Internet.
Pareil, moi je regarde horrible. Avec. je loue avec mon Apple TV, moi, des films. Je pense que le fait d'avoir un support quelconque pour un média va devenir complètement dépassé, donc je m'en fous un peu en fait.
Le Blu-ray ne sera pas vraiment le prochain DVD quoi. Bon, à vrai dire, je suis d'accord avec vous, hein, je pense que les choses vont se passer dans les nuages de toute façon. La prochaine transition, c'est ça. Et bon, le Blu-ray, maintenant, ceci dit, ça veut pas dire qu'il va être un ratage complet, mais par contre il ne connaîtra sans doute pas la popularité qu'a le DVD aujourd'hui quoi. Enfin, donc peut-être bientôt chez nous aussi à Noël le lecteur Blu-ray à moins de $100. Ça arrivera, on l'espère, ou on s'en fout, on verra bien. Facebook, premier en temps d'audience. Incroyable, Facebook serait le premier en temps d'audience sur le web, selon une étude qui a été faite pour le mois de juin. Avec 4h39 de moyenne, ils sont devant Yahoo, AOL, Google et même Microsoft. Ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui, où l'attention de l'internaute, en fait, sur le web, c'est la monnaie. C'est comme ça qu'on peut payer ses factures. Et Loïc et même Corben, d'ailleurs, vous en savez quelque chose. Facebook, c'est l'avenir du web. Commençons par Loïc. Toi, tu parieras peut-être oui, vu que ton produit est axé là-dessus, donc tu dois y croire.
Non, parce qu'il est aussi axé sur Twitter. Je pense que l'année 2009 est une des années les plus excitantes depuis le lancement, depuis l'explosion du web, parce que cette guerre entre Facebook et Twitter sur le real-time web, le web en temps réel, est absolument passionnante. C'est-à-dire que Twitter essaie d'être Facebook grâce à ces docs dont on vient de parler. Il y avait quand même une info dedans qui était que l'ambition de Twitter, c'était d'arriver à 1 milliard d'utilisateurs, ce qui est louable en termes d'ambition d'entrepreneur.
Mais il disait qu'ils voulaient être le pouls de la planète, en fait.
Qu'ils veulent devenir... et je pense qu'ils ont la capacité, 1 milliard, je sais pas, mais ils ont la capacité d'être aussi gros que Facebook, je le pense sincèrement. Notamment sur la base de la simplicité de Twitter, c'est-à-dire que n'importe quel téléphone portable dans le monde peut envoyer un SMS et donc utiliser Twitter. Maintenant sur Facebook,
on est d'accord, hein, moi sur Twitter, ça fait des mois que j'en parle, twitter.com/notepatrick, hein, mais sur Facebook, ouais.
Et sur Facebook, c'est l'inverse, c'est-à-dire que Facebook, c'est le gagnant aujourd'hui des réseaux sociaux, très établi, 300 millions d'utilisateurs, une puissance absolument incroyable, mais qui tout d'un coup est challengé par le petit Twitter,
ouais.
Qui croit à une vie qui est beaucoup plus vite que Facebook et qui est tellement simple, notamment du point de vue de son API. C'est-à-dire que quand nous, on est développeurs sur les deux, c'est beaucoup plus facile de créer une application en utilisant l'API de Twitter et de s'y interfacer qu'avec Facebook. Ouais. Et donc, ils ont quand même pas mal de challenges. On a vu récemment qu'ils ont complètement redesigné leur page pour ressembler à Twitter. On a vu qu'ils ont créé les noms. Donc, vous avez dû vous lever à 5h ou 6h du matin pour réserver votre nom sur Facebook. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Loïc sur les deux. Je suis très heureux.
Ou pas mal, mais, ouais, effectivement.
mais c'est aussi une tentative de ressembler à Twitter. C'est-à-dire que pour la première fois, vous pouvez décider d'avoir un profil public. Et donc, cette course est absolument extraordinaire. Mais je suis d'accord, Facebook est... enfin, en gros, si tu me demandais aujourd'hui qui va gagner, je ne suis pas persuadé, même si Facebook est devenu aussi puissant, qu'il ne soit pas concurrencé de manière très forte par Twitter dans les années qui viennent. D'ailleurs, oui, ils le comprennent, hein, Zuckerberg est obsédé par Twitter.
Mais c'est marrant que tu nous parles tout de suite de Twitter, parce que là, on faisait quand même... Bon, nous, on en parle tout le temps, Twitter, parce qu'on a un coup de cœur, mais là, on parlait quand même de mastodontes du web, comme Yahoo, AOL, Google, etc.
Et c'est vrai que je me suis aperçu du décalage avec l'Europe, où la réaction est d'ailleurs dans ton chatroom en ce moment, pas mal de gens sont en train de dire je vois pas l'intérêt de Twitter. Et il y a une énorme différence. Je suis surtout pas en train de parler de retard ou quoi que ce soit. Surtout, ne prenez pas mal ce que je suis en train de dire. Je suis juste un fait sur le fait qu'ici les actus techno c'est 100% Twitter contre Facebook ou Facebook contre Twitter.
Ouais,
100%.
Ouais. Quand tu dis ici, tu parles des États-Unis. Hein.
Non, dans la Silicon Valley.
D'accord.
et c'est oui, il y a plein d'États dans les États-Unis où les gens n'utilisent pas encore Twitter, mais c'est vrai que c'est tout simplement parce qu'on le voit dans les différentes conférences un peu partout. Regarde, c'est tout ce qui s'est passé. D'un point de vue politique, où à chaque fois qu'il y a une actu sur l'avion qui se casse la gueule à New York,
bien sûr, oui.
C'est toujours Twitter, mais c'est pas Facebook. C'est à chaque fois c'est Twitter et Facebook est toujours derrière en train de courir. Mais chez nous aussi, ils parlent de ça. Alors que c'est vrai, hein. Et du coup, c'est un vrai challenge pour eux et tout le monde parle de ça. Ça ne change rien à la puissance de Facebook. Évidemment, moi je suis très enthousiaste sur les deux et j'utilise les deux toute la journée. C'est incroyable la force de Facebook. Je suis allé chez Facebook il y a 15 jours pour un rendez-vous dans leurs nouveaux locaux. Il faut voir ça. C'est plus de 1000 personnes. Ça ressemble, on se croirait chez IBM. Hein.
Corben, Facebook premier en temps d'audience, ça t'inspire quelque chose ?
Premier en temps d'audience, non, pas vraiment, mais par contre, ouais, je suis un peu comme Loïc sur. Enfin, j'ai un peu le même avis que Loïc sur Twitter. Facebook, c'est bien, mais je pense que c'est trop pollué, quoi. De photos, de gens perso, il y a toute ta famille, il y a des applications dans tous les sens, c'est le bordel. L'information, elle est noyée, en fait, dans tout le reste. Et je pense que Twitter, en fait, justement, c'est là où tu vas à l'essentiel, les messages sont courts. Tu suis pas forcément beaucoup de gens parce que t'as envie d'avoir un message clair, alors que dans Facebook, si t'es pas ami avec tes amis, les gens vont te casser les pieds pour que tu sois ami, parce que voilà. Mais
d'ailleurs,
tu t'en fous, tu suis qui tu veux, et au final, le format court est vachement bien, parce que t'envoies un texto, tu tapes un petit message, et c'est vraiment, enfin. Comme tu disais tout à l'heure, le pouls de la planète, c'est ce qu'ils veulent devenir, en fait. C'est rythmer l'actu. Enfin, moi, en tout cas, qui suis fan d'actu, c'est ce que je cherche, quoi. C'est de l'information en temps réel.
Ceci dit, Corben, ce qui est très intéressant, c'est que Twitter n'est pas utilisé par les ados.
C'est ce que j'allais dire. Beaucoup de gens disent que Twitter, c'est le réseau des vieux et Facebook, c'est le réseau des jeunes.
Parce qu'il y a une différence fondamentale entre les deux, c'est le fait que ce soit confidentiel et le fait que les enfants, les ados, les jeunes, j'ai du mal à me mettre dans la case vieux, mais tant pis, on va y aller.
je crois que
tendance
qu'on
à
y
vouloir,
est, hein.
oui, c'est comme ça, à vouloir se communiquer entre eux en privé. Et en fait, ce qu'offre Twitter, même avec cette option de confidentialité, ne répond pas du tout à leurs attentes, parce que en général, tout l'intérêt de Twitter, c'est de le faire en public.
Et c'est ce que j'ai constaté, même moi, dans ma communauté avec les différents podcasts, il y a des gens que j'ai invités à nous rejoindre sur Twitter. La plupart des gens qui sont venus sont des gens qui ont entre 25 et 35 ans. Il y a des gens qui ont essayé, comme nos modérateurs Alex ou Florent, enfin Seredwin et Magico, qui sont venus un petit peu sur Twitter. Ils ont essayé vaguement quelques semaines, ils ont tenté, ça les a pas intéressés, ils sont partis relativement vite, et ce sont ceux qui sont un petit peu plus jeunes, qui ont moins de 20 ans, donc ça semble se vérifier en tout cas.
Moi, pour te donner une idée, mon fils a refusé, il a 14 ans, refusé de me friender sur Facebook. Je suis pas l'ami de mon fils sur Facebook. Parce qu'il veut absolument pas que je vois justement ce qu'il partage avec ses amis. Donc
je le comprends,
on est en plein dans la différence.
Ouais. Bon, les gens qui vont tout savoir sur Facebook, il y en aura sans doute beaucoup d'ici quelques années, quand le film sur Facebook sera sorti. Alors évidemment, la première chose qu'on se dit, c'est un film sur Facebook, on n'en a rien à faire. Eh bien... Vous savez quoi ? Moi, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant pour deux raisons. D'une part, c'est parce que le réalisateur qui est pressenti pour réaliser ce film, c'est David Fincher, qui a fait des films comme Seven, Fight Club, etc., etc., qui sont pour moi des films totalement cultes. Et d'une autre manière, je pense que ça peut un petit peu retracer l'histoire de la deuxième génération d'entrepreneurs du web, et enfin, d'entrepreneurs de la technologie, c'est-à-dire du web, quand il est devenu véritablement important. Au même titre que le film de MTV qui s'appelle Pirates of the Silicon Valley, les pirates de la Silicon Valley, avait retracé l'histoire de Steve Jobs et Bill Gates, et c'était un film... pour des gens comme nous qui sont intéressés par ces sujets, et même, je pense, pour plus de gens, c'était un film passionnant, parce que ça raconte l'histoire de notre époque, quoi, notre quotidien, comment il s'est créé. Enfin, moi, j'étais vraiment fan de ce film, Pirates of the Silicon Valley. Pourquoi pas le film Facebook ? Ça pourrait être pas mal, si ça parle pas que des amours de Mark Zuckerberg à l'université, quoi. Non, vous êtes sceptique.
Ouais. Non, mais en fait, ce qui est marrant avec ce film, c'est que apparemment Facebook est. Enfin, je sais même pas si ça s'est fait avec le. Enfin, ça va se faire avec l'autorisation de Facebook, parce qu'ils vont faire passer Mark Zuckerberg pour un gros, pas un psychopathe, mais un gros esclavagiste en fait. Tu vois, un mec qui est super exigeant.
Je crois que c'est basé sur le. C'est basé sur le livre The Accidental Billionaire, non?
Ouais, c'est
ça, voilà. Je me trompe peut-être.
J'ai pas lu, mais...
C'est pas une biographie officielle, quoi.
D'accord, ouais, voilà. Donc, bon,
et surtout, Facebook fait super gaffe à son image. Hein. Ils ont, par exemple, il y a un bouquin qui est sorti il y a pas longtemps, c'est le bouquin autorisé. Donc...
Mais à la limite, effectivement, ça n'a rien à voir avec le Facebook officiel, ça sera un truc de d'adaptation de fiction, mais je veux dire, même à ce titre-là, moi, je pense que ça peut... moi, en tout cas, je pense que je serais intéressé par ce truc-là. Mais, bon, visiblement, vous êtes un petit peu plus... un petit peu
ouais, en général, les reprises du web ailleurs que dans le web, c'est toujours un peu naze.
Mais t'avais vu Pirates of the Silicon Valley ?
Non.
Bah écoute, loue-le, tiens, puisque tu loues les trucs fièrement sur ton Apple TV, s'il y est. Franchement, c'était pas mal. C'est marrant et c'est pas trop mal foutu. Et bon, je suis sûr que c'est pas 100% vrai, mais ça vaut le coup de.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Regardez. Voilà. Ensuite, en parlant d'Apple, tiens, et des folies de Steve Jobs, ressortie de la rumeur, la tablette Apple. Alors, ce coup-ci, c'est Engadget qui a ressorti l'info. Ça serait une tablette entièrement tactile avec un écran de 9 pouces 7 pour moins à peu près $800. La grosse question qu'on se pose, en fait, c'est pour quel marché ? Parce que c'est trop gros pour être un truc genre iPhone qu'on met dans sa poche. Et c'est trop cher pour être un truc genre netbook qui sert qu'à aller sur le web et qui soit pas bon marché, quoi. Généralement, les netbooks tournent autour de $300-$400. Je ne sais pas trop comment répondre à cette question, à quoi il va servir. Le truc, c'est que à partir du moment où c'est Apple qui le fait, moi je vais y prêter attention parce qu'il faut toujours faire attention à ce que fait Apple parce qu'on ne sait jamais ce qu'ils vont sortir. Maintenant, ils ont eu des ratages aussi, on pense au Newton notamment et à ce genre de choses. J'ai quand même un point d'interrogation sur ce produit-là en particulier. Vous voyez la stratégie d'Apple avec un truc comme ça ou c'est du flan et c'est n'importe quoi cette histoire qu'a sorti Engadget, ouais. Loïc ?
J'en sais rien.
moi je suis persuadé vu le taux de rumeurs qui tournent autour du sujet, je suis persuadé qu'ils sont en train de le faire.
D'accord.
Pas mal d'amis ici sur Apple, chez Apple, malheureusement, qui évidemment ne parlent jamais. Ils sont très très forts pour ça. Mais
il y a Giova sur la chatroom qui demande s'il y aura le copier-coller, ce que je trouve assez amusant comme remarque. Petite pique vers l'iPhone. Pardon. Continue.
Moi je pense que ça a beaucoup d'avenir. Parce que, mais c'est probablement un peu cher, mais ça va baisser. Mais c'est ici on dit le out of the bed computer, c'est-à-dire l'ordinateur que vous prenez pour aller vous coucher ou quand vous vous levez, en gros pour regarder rapidement ce qui se passe. C'est le casual computer et je pense que c'est pas fait pour répondre à 500 mails, quoi. Mais consulter très vite vos sites web préférés, lire un peu dessus, concurrencer un petit peu le Kindle par la même occasion comme vraiment outil dédié à la lecture. Moi j'ai un Kindle, au début j'avais une réaction plutôt négative sur le Kindle parce qu'il est en plus noir et blanc et donc c'est un peu bizarre, et maintenant je peux plus m'en passer tout simplement moi, parce que c'est une manière extraordinaire de lire un bouquin et
moi
ça
c'est la manière dont je me sers de mon iPhone un petit peu, ce dont tu parles, le out of bed computer. Souvent je m'en sers comme ça. C'est vrai que je serais séduit par une machine un petit peu plus grosse avec un plus gros écran en tout cas. Par contre, $800 juste pour pouvoir aller checker TechCrunch le matin en me levant, ça fait un peu raide, quoi.
Oui, mais ils vont toucher les early adopters qui ensuite ils baisseront le prix.
Ouais.
Et puis voilà, mais regarde l'iPhone quand même, c'est le téléphone le plus cher du marché, ça ne les empêche pas du tout de très très bien vendre.
Ouais, c'est plus le cas aujourd'hui, il est plus aussi cher qu'à l'époque. Mais
enfin, si tu prends le 3GS, si tu veux le dernier, c'est quand même très très cher.
Bah, quand tu le prends, tout le monde le prend avec un abonnement, donc ça revient à 150€, c'est raisonnable, quoi. Mais c'est vrai que c'est plus cher que les autres.
Corben,
ouais, toi, t'étais encore en train de dire, bon, je m'en fous, moi, de cette histoire. Il y a pas Linux
dessus.
Non, mais tu sais,
ce truc-là, c'est non, mais ouais, c'est bon. non, mais bon, c'est sympa une tablette, mais il y en existe déjà tellement. Après, bon, ça sera peut-être un espèce de gros iPhone. Ouais, ça peut être pratique pour checker tes mails aux toilettes le matin ou ce genre de truc. Mais après, je sais pas ce que tu peux vraiment faire.
Ah les gars, vous me faites des douches froides. Moi, je m'enthousiasme pour tout aujourd'hui, et vous êtes là, ouais.
Non, moi j'adore. Moi j'en veux un. Dès qu'ils vont le lancer, je vais en acheter un tout de suite. Avec un crunchpad.
Alors ça brasse. Oui, avec le crunchpad.
Et moi je mange un sandwich en même temps, c'est midi ici.
Je t'en prie. Autre info, c'est le Sony W. C'est-à-dire que Sony a enfin craqué. Ils ont dit pendant des mois et des mois qu'ils n'iraient pas sur le marché des notebooks. Et bien finalement, ils y vont aussi. Comme quoi, tout le monde, absolument tout le monde, se met sur le marché des. Pardon, j'ai dit des notebooks. Je voulais dire évidemment des netbooks. Autre info, on parlait de Jones tout à l'heure. Visiblement, selon une étude anglaise qui a été faite sur 1000 jeunes de 14 à 18 ans, c'est pas non plus l'ensemble du pays, mais tout de même, les Jones terme consacré, téléchargent moins et streament plus aujourd'hui. Les chiffres qu'ils donnaient, c'était 65% des jeunes streament régulièrement, donc écoutent de la musique en streaming sur des services comme Spotify, Deezer, etc. 31% le font tous les jours. Et en janvier 2009, il y avait 26% de ces mêmes personnes qui téléchargeaient de la musique, contre 42% en décembre 2007, donc un an avant. Ouais. C'est la tendance, là encore, qu'on retrouve à tout faire dans les nuages, à ne rien avoir chez soi. Ça semble être inévitable, quoi. Ça me laisse penser que Google
non, mais
a raison
là,
de...
Là, si tu veux, avant, il n'y avait pas... Enfin, maintenant, il y a beaucoup de solutions comme Deezer, Spotify, etc. Avant, il n'y avait pas, ou quasiment pas, ou alors avec pas beaucoup de chansons. Donc, les gens téléchargeaient encore, et voilà. Mais maintenant, c'est immédiat. T'as de la bonne musique de qualité. Enfin, pour moi, c'est logique, mais c'est pas juste un effet de mode.
Je suis d'accord, mais il y a un autre truc qui est même plus important à mon sens dans ce changement de mentalité, c'est que souvent on nous disait, par rapport aux services de streaming que moi j'appelle de mes voeux depuis un moment, les gens nous disaient mais non, ça marchera pas parce que il faut posséder sa musique. Et là encore, peut-être que c'est une mentalité de vieux, enfin je veux dire de nous quoi, on se dit moi je veux avoir mon MP3 sur mon ordinateur parce que sinon je suis pas à l'aise, je peux pas me dire tout est dans les nuages quelque part, et cette étude semble contredire cette idée reçue quoi.
Moi je suis persuadé que le téléchargement va rendre has-been le streaming va rendre le téléchargement has-been aussi vite que le téléchargement a rendu les disques sur support la musique sur support physique aussi vite. Ça va être très très rapide. Simplement parce que je suis d'accord avec Corben, il y a une autre tendance de fond, c'est que la bande passante disponible sur les téléphones mobiles devient suffisamment bonne pour qu'on puisse aussi streamer dessus.
Les abonnés à AT&T te contrediraient là-dessus, mais effectivement,
mais je suis d'accord. À chaque fois que je reviens en France, d'ailleurs, je suis ravi de retrouver une connexion française. Sérieusement, ici, c'est pourri. On passe en Edge en permanence. Mais en général, ça s'améliore. Et dans ce cas-là, plus aucun intérêt. C'est que comme les mails sur un téléphone portable, ça... aucun intérêt de les télécharger. Donc on va tous passer en streaming, manque plus que ça dans la voiture aussi. Et puis je pense que avoir des fichiers sur l'ordinateur, c'est en train de devenir complètement ringard.
Moi c'est le... Pardon Corben, tu voulais dire un truc?
Ouais, j'allais dire, mais même pour les films. C'est-à-dire que là, avant t'allais au magasin, acheter ton petit DVD, et tu faisais le déplacement, tu le mettais dans ta platine, t'étais content. Ceux que ça saoulait, ils téléchargeaient le film sur internet et voilà. Maintenant, t'as la VOD directe que tu payes, ceux qui veulent pas payer la VOD, ils le regardent en streaming, mais c'est aussi la notion de... C'est immédiat en fait. Je le prends, je l'écoute, ça me plaît pas, je le balance, je me suis pas fait chier à le télécharger. Tu vois, c'est encore pire que de pas l'acheter et d'aller le télécharger. Je prends même plus la peine de le télécharger, je l'écoute direct. Et pareil pour les films, c'est immédiat quoi. Mais ça revient à ce qu'on disait avec l'info qui tourne en temps réel et compagnie. On a le même principe avec la musique et les films. Ça tourne non-stop en temps réel et voilà. Et grâce aux bonnes bandes passantes qu'on commence à avoir.
Moi je suis d'accord et d'ailleurs j'attends avec impatience l'arrivée d'un service par abonnement sur iTunes, parce qu'il y en a ailleurs, mais je pense que le jour où Apple décide de se dire on va faire soit du streaming, soit un truc par abonnement où c'est illimité jusqu'à ce que, tant que vous payez genre 10$ ou ce que c'est, et vous pouvez en prendre autant que vous voulez en streaming et pas en streaming, effectivement à partir du moment où tu as ça sur ton iPhone aussi, quel est l'intérêt d'avoir de s'emmerder à télécharger un MP3 quoi. Et d'ailleurs Microsoft semble être d'accord avec nous puisqu'il lance un service similaire à Spotify très bientôt, donc un truc de streaming en permanence, et ça risque de mettre un clou de plus dans le cercueil du téléchargement MP3 qui, restons raisonnables et honnêtes, n'est pas non plus en train de partir dans les 6 mois, ça risque de prendre quelques années quand même.
Ça existera toujours, mais ça sera moindre
effectivement. Dernière petite news, c'est le routeur Adopi qui est une sorte de plaisanterie dont Corben me disait que ça n'en est pas vraiment une finalement. Il y a une histoire qui a tourné un petit peu partout, sur Twitter notamment. C'est le routeur Adopi qui a été conçu spécialement pour contrecarrer les contraintes de la loi Adopi dont nous vous avons déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. C'est un routeur, donc la petite boîte qui se connecte à Internet hein, aujourd'hui. Je simplifie, hein, les technophiles ne m'envoyez pas d'email, mais je simplifie, genre votre Freebox ou un truc du genre, un truc équivalent qui vous permet de vous connecter automatiquement au réseau Wi-Fi des voisins, qui craque le code pour vous connecter au réseau Wi-Fi des voisins de manière à pouvoir télécharger sur leur réseau à eux, sans vous embêter à vous soucier de si Adopi vous surveille ou pas, et qui change régulièrement de réseau Wi-Fi tout seul, qui est prévu pour. Alors évidemment, c'était une plaisanterie qui avait été faite sur le web, mais Corben, en préparant l'émission tout à l'heure, tu me disais que certains sont en train de développer des firmwares, donc les logiciels pour installer ce type de fonctionnalité sur des routeurs qui existent.
Oui, en fait, il y a un petit groupe de hackers français qui s'est amusé effectivement à faire une version d'OpenWRT. En fait, c'est un firmware open source, hein, libre, qui s'installe sur des routeurs Linksys ou des routeurs, par exemple, Phone avec Safonera. Et donc, ils se sont amusés à détourner ce firmware pour justement faire quelque chose qui en gros, tourne tout seul, craque les réseaux Wi-Fi aux alentours et puis voilà, fait passer les connexions, et puis quand il y en a plus qui sont, quand les connexions sont fermées ou qu'elles n'existent plus, il passe à la suivante, etc. Et il bombarde dans tous les sens. Et là c'est plus une preuve. Enfin, ça peut faire du tort aux gens parce que dans la loi Adopi, il commence à y avoir des choses comme les défauts de sécurisation de sa ligne qui peuvent coûter, je crois, 1 500 € d'amende et compagnie si t'as pas mis le bon mot de passe, si t'as pas bien sécurisé ta ligne. Et là, en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est surtout faire une démonstration, on va dire, de force, hein, une démonstration que
oui, c'est
pas sécurisé du tout.
Quoi.
Ouais, c'est ça, c'est une démo de que c'est pas du tout sécurisé et que même si tu mets un mot de passe sur ton routeur, n'importe qui prend ce firmware peut craquer ton mot de passe. Ouais. Quoi.
Loïc, vu de là-bas,
c'est vraiment la Chine chez vous. Hein,
en ce moment, c'est un peu hard, ouais. Mais on résiste, t'inquiète.
Moi, je me demande vraiment qui a contribué à faire élire ce gouvernement-là. C'est vraiment.
Ah, j'adore, il a de l'humour, le jeune homme. Pour ceux qui savent
vraiment
pas.
Moi, si j'étais vous, j'envisagerais même de quitter le pays.
Il y en a qui ont pris les devants, visiblement. Donc, je ne dirai pas mes préférences politiques en ce moment.
Tout ça est vraiment une plaisanterie, évidemment, mais il fallait quand même que je la fasse. Je me suis exprimé en public plusieurs fois sur le fait que je trouvais que c'était vraiment une catastrophe.
Non, mais on est d'accord. Non, mais d'ailleurs, on peut.
Je suis vraiment malheureux pour vous. Vraiment, je passais du temps à aller inventer des.
D'ailleurs,
des routeurs qui détournent ça, c'est quand même. Mais je comprends tout à fait. Mais c'est vraiment. Je crois qu'on ferait mieux de se concentrer sur autre chose que ça. Mais bon, je pense qu'on sera tous d'accord.
Non, c'est clair. Je crois que là, on se rejoint en tout cas. Ne parlons pas politique. Moi, je suis. Je m'en fous. Je suis plutôt du côté de Loïc. Moi, je crois que Corben est un petit peu de l'autre côté. Je sais pas si je me trompe, mais en tout cas,
je veux dire
clair,
c'est du que... côté américain, c'est ça.
Voilà, exactement.
D'accord. Je demandais juste clarification.
Non, mais oui, bon. Mais par contre, non, ce qui est clair, c'est vrai que
côté, c'est juste en deux mots rapidement. C'est pas une question d'un côté ou l'autre. C'est juste que il y a un vrai problème qui est le problème du piratage et que là actuellement, que ce soit ce gouvernement-là ou un autre, hein, c'est pas le problème. Je pense qu'ils s'y prennent très mal pour régler ce problème ça part en cacahuète, mais bon, voilà.
Non, mais je crois que c'est ça qui est important, en fait, c'est que c'est un problème où, pour le coup, il ne s'agit même pas d'un bord politique, mais que c'est juste qu'ils s'y prennent de travers et que, à vrai dire, personne ne s'y est bien pris jusqu'à maintenant, mais là, c'est vraiment le pompon, quoi.
Ouais, c'est ça.
Une autre chose qui va nous permettre de combattre le totalitarisme chinois dont nous sommes victimes, c'est les BitTorrent camouflés dans des images. C'est-à-dire que plutôt que de télécharger un petit point torrent pour avoir accès à votre fichier que vous voulez télécharger, vous pouvez avoir les informations nécessaires codées dans une image. L'intérêt, c'est que évidemment le gouvernement ou les autorités de régulation ne peuvent pas réguler les images, ou alors c'est très compliqué.
Je me demande où t'as vu ça.
c'est plus compliqué, on va dire. Disons que si tu mets une image sur un forum, pour la retrouver, c'est pas facile.
Ouais, non mais c'est ça, c'est toujours le truc aussi, c'est que maintenant, tu prends n'importe quel service d'hébergement d'images, que ce soit TweetPic, ImageShack, enfin tout ce que tu veux, ça peut potentiellement devenir des mini Pirate Bay en puissance.
Voilà,
donc il y a plus besoin de
Pirate Bay, quoi. C'est-à-dire que
si, parce que en fait non. Après le torrent, il a besoin d'être distribué pour
d'un tracker.
Mais l'hébergement de fichiers torrent, tu le mets où tu veux, quoi.
Voilà. Ouais.
Mais c'est pareil, donc, hein, c'est une connerie, hein, c'est pas, ça va pas révolutionner
C'est encore en fait c'est une connerie aujourd'hui, mais je crois que vraiment c'est une preuve de plus que si jamais les autorités essayent de prendre ce problème du piratage, qui est bien réel, hein, que personne ne nie, mais s'ils le prennent de la mauvaise manière, ça ne fait que pousser le piratage plus loin dans la clandestinité et dans l'intraçabilité. Donc,
c'est ça le problème, voilà. C'est que plus tu pousses et plus ça va se radicaliser. Le Pirate Bay qui propose son VPN à 5€ par mois, tu te connectes à Internet de manière complètement anonyme. C'est radical, mais les gens sont prêts à payer pour ça, quoi. Donc ça va être de pire en pire, quoi. Mais le problème, c'est que les vrais criminels, eux, ils vont pouvoir utiliser toute cette technologie qui évolue dans ce sens-là pour continuer à faire leurs conneries, quoi. C'est dommage.
Allez, on abandonne les sujets sérieux et on passe
sur Apple.
La séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
Alors, la séquence des rumeurs à la con, avec la première info qui n'est pas vraiment une rumeur. Le gouvernement allemand interdit les LAN parties avec Counter-Strike parce que c'est super violent, ou tout autre jeu avec des armes. Donc, vous ne pouvez plus vous retrouver avec quelques dizaines d'amis et faire une partie de Counter-Strike. Vous n'avez plus le droit, parce que le gouvernement a dit c'est trop violent, ces pauvres enfants ne vont pas connaître la différence entre les jeux et les... Bon, là on touche le fond, je crois qu'il n'y a même pas autre chose à dire que juste secouer sa tête in disbelief, comme diraient les Américains.
Les Allemands, c'est quand même eux qui avaient inventé le sang vert dans les jeux, hein. C'était assez marrant. Mais le vrai problème, hormis les LAN, c'est dommage, mais le vrai souci, c'est pour les cybercafés, en fait. Tous les gens qui... au début, les gens ont ouvert des cybercafés parce que tout le monde pouvait pas avoir Internet chez lui. Maintenant, tout le monde a quasiment... tout le monde a Internet chez lui. Et le seul endroit où... Enfin, les cybercafés se sont reconvertis en
salle de jeu, quoi. En salle de jeu où les jeunes se retrouvent et socialisent.
Ouais, c'est ça, il n'y a pas de secret, c'est pas Tetris en réseau qui marche, quoi. C'est Counter-Strike, c'est Wolfenstein, enfin, c'est tout ce que tu veux. Donc, c'est.
Notre jeunesse pourrait bénéficier d'une éducation plus Tetris. C'est un jeu sain et non
Tetris.
Violent.
J'aime beaucoup Tetris, je suis très fan de Tetris.
Bon, news Apple diverse. Apple bloque la synchronisation du prêt sur iTunes. Ça on pouvait s'en douter, ça allait arriver. L'iPhone chauffe trop, ça c'est assez extraordinaire comme info. Si jamais votre iPhone chauffe trop, ce qui arrive de temps en temps, un écran vous demande gentiment d'attendre qu'il refroidisse et d'arrêter de l'utiliser pendant ce temps. Voilà, c'est pas compliqué, ils ont résolu le problème de la surchauffe de l'iPhone.
C'est vraiment une blague, ça.
Non mais c'est vrai, hein, c'est pas une plaisanterie, mais
L'écran, ah bon ?
Ah oui, non c'est vrai.
Écoute, moi j'ai un 3GS ici et j'ai eu aucun problème.
Bon,
aucun problème jusque là. En revanche, le prêt crache 3 fois par jour à peu près. Il y a un problème de batterie, il faut les renvoyer.
D'accord. Apple demande à Microsoft d'interrompre la diffusion de pubs parce que le laptop de leur pub Laptop Shopper, où ils demandent à des gens d'aller trouver un ordinateur pas cher, et les gens vont chercher dans les magasins et ils trouvent évidemment que les Macs sont trop chers, et visiblement Apple a descendu le prix de 300€ sur l'une de leurs machines qui était encore affichée comme étant à 1999€. Donc Apple n'était pas content, ils ont appelé Microsoft pour leur demander de baisser le prix. J'ai eu un long débat avec mon cousin qui est très fan d'Apple à ce propos, et nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Apple est parfaitement dans son droit de demander la chose à Microsoft, parce qu'il est vrai que leur ordinateur est moins cher. Maintenant, venant de des gens qui font les pubs I'm a PC, I'm a Mac, bon, c'est un petit peu.
C'est marrant ce truc-là. Moi, ça me choque beaucoup de voir ça aux États-Unis, à quel point ils sont concurrentiels entre eux. C'est-à-dire que probablement parce qu'en France il y avait cette historique des publicités comparatives interdites, ce qui est plus le cas maintenant à ma connaissance. Mais ici c'est en permanence de dénigrer les concurrents. Alors que je trouve que sur l'internet c'est pas un truc qui est vraiment bien vu en fait, de taper sur les autres. C'est d'essayer de faire le meilleur produit possible, mais pas forcément de taper sur les autres. La bataille Apple Microsoft est vraiment marrante.
Ouais, il faut avouer que les pubs Apple, I'm a Mac, I'm a PC, bon, même s'il y a des trucs qui sont un petit peu de mauvaise foi de temps en temps, moi je les adore, elles sont vachement bien foutues.
Et encore, c'est parce que t'as pas vu I'm a Linux. Tu les trouves encore plus drôles.
Oui, elles sont bien, effectivement. Mais là, c'est vrai que bon, c'était pas forcément super nécessaire. Mais bon, d'un autre côté, comme le faisait remarquer encore une fois mon gentil cousin, ils vont pas non plus rester les bras croisés, c'est un truc normal, quoi, mais bon. D'ailleurs on va reparler dans quelques minutes un petit peu plus d'Apple. Dernière info dont on se fout et qui est pas une rumeur pour le coup, c'est le projet Natal dont on vous a parlé plusieurs fois, ce fameux petit truc additionnel qui vient se coller sur votre console Xbox 360 et qui peut vous voir et vous entendre, donc interpréter vos mouvements, fonctionnera à terme sur Windows également. Donc on se rapproche un petit peu plus de ce film avec Tom Cruise, Damned. Ah, le film où il bouge dans les airs. Chatroom, aidez-moi. À l'aide. Minority Report. Voilà, merci. Minority Report, tu l'as dit en même temps que la chatroom. Merci Pim et Jedi. Et Dinan. Donc voilà, bientôt Minority Report. Dans votre chambre, à côté de votre PC, vous n'aurez pas l'air d'abruti. Ça sera marrant. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour nos informations d'aujourd'hui. Il en restait quelques-unes sur lesquelles on va passer parce qu'elles ne sont pas essentielles. On va passer à la conclusion de notre émission avec l'explication d'Arnaud. Loïc, ça va ? On te laisse partir ou tu as encore 10 minutes ?
Vas-y, c'est bon, je passe avec vous jusqu'au bout.
Alors, l'explication d'Arnaud, donc notre cher Arnaud qui nous fournit à chaque épisode une explication pour clarifier un petit peu les choses auxquelles vous ne comprenez rien et que vous pouvez retrouver évidemment sur son blog jcomprendsrien.blogspot.com. Il nous parle aujourd'hui des mots de passe et c'est un sujet extrêmement à propos puisque nous avons parlé de Twitter et de la manière dont ils se sont fait hacker. Et il nous dit la sécurité des mots de passe sur Internet. Commençons par quelques notions souvent utilisées par les journalistes spécialisés. Parmi les attaques les plus connues visant à récupérer des mots de passe, on trouve l'attaque par force brute. Brute force attaque. Il s'agit en fait de tester toutes les combinaisons possibles de mots de passe afin de finir par tomber sur le bon. Cette technique était d'actualité il y a longtemps, elle a finalement été remplacée par des attaques beaucoup plus malignes se fondant sur les mauvaises habitudes des utilisateurs d'Internet. Entre autres, les mauvaises habitudes des utilisateurs d'Internet, c'est vous qui nous écoutez. C'est vous qui les avez. Donc, prêtez attention à ce que nous disons. En effet, les hackers ne se sont rapidement plus contentés de tester des combinaisons au hasard, mais ont utilisé des sortes de dictionnaires de mots de passe les plus courants. Enfin, dernière étape tout particulièrement en vogue auprès du grand public ces derniers temps, chercher des informations personnelles sur la personne à hacker. C'est ce qui s'est passé avec Twitter. Pensez bien que vous êtes responsable des données qui pourront être diffusées. Si vos photos de vacances ont un intérêt limité, par contre, vos données professionnelles engagent votre employeur. Bien entendu, certaines règles de base permettent de se prémunir ou du moins de limiter l'influence de ces attaques. Et il donne quelques règles à respecter. Je vais en lire quelques-unes, vous pourrez en lire plus sur son blog. N'utilisez pas de mot de passe affreusement simple qui pourrait figurer dans l'un de ces fameux dictionnaires. Votre lieu de naissance, un prénom, un nom courant, une date sont, les mots de passe, sont des mots de passe très faibles. N'utilisez surtout pas une donnée qui pourrait être connue de tous. L'exemple type est le nom de votre animal de compagnie, dont on parlait encore une fois juste tout à l'heure. Si vous affichez son nom partout sur votre page Facebook, il va sans dire que ce n'est pas compliqué à trouver. Mais comment créer un mot de passe, un bon mot de passe alors ? Pensez à une phrase très simple à retenir, mais assez longue avec des noms communs et des noms propres. Par exemple, lorsque j'étais jeune, j'ai fait mes études à Paris. Vous conviendrez que ce n'est pas spécialement compliqué à retenir. Pour créer votre mot de passe, vous prenez la première lettre de chaque mot et ça donne L-J-E-J-J-A-F-M-A-I. Pardon, M-E-A-P, avec L, le premier L et le dernier P, en majuscule. Ça, ça fait un sacré mot de passe. Vous pourrez ensuite l'améliorer si vous voulez, si vous voulez qu'il soit encore plus difficile à trouver. Par exemple, remplacer la lettre A par le chiffre 4, qui ressemble à un Excusez-moi, j'y arrive plus là. Je n'en peux plus. Qui ressemble à un A majuscule visuellement. Et ça donne, etc. Il y a aussi la virgule que vous pouvez remplacer par une dièse, ou etc., etc. Il y a plein de petites techniques. Il parle d'autres petites choses dans son message. Je vous invite à aller le consulter sur son blog jycomprendsrien.blogspot.com.
Je te rassure, j'ai rien compris non plus.
J'ai parlé trop vite. Repassez-le plus lentement. C'est l'avantage du podcast, tu vois. Les gens de la chatroom, même eux, ils vont pouvoir aller télécharger le podcast et le repasser en plus lent avec leur iPhone en 0,5 parce que c'est maintenant possible avec le firmware 0.1, avec le firmware 3.0. Comme le copier-coller, ils apportent des innovations incroyables chez Apple. Le conseil logiciel d'aujourd'hui, c'est Double Twist de DVD John. DVD John, c'est ce jeune homme qui avait craqué la protection du DVD, qui était très connu pour ça. Il a créé un logiciel commercial ce coup-ci, qui est disponible en bêta mais qui fonctionne très bien. C'est un gestionnaire de médias, un petit peu à la iTunes, pour vos smartphones et pour tous vos gadgets en fait, qui peuvent lire des médias, que ce soit de la musique, des photos, des vidéos. Et le truc qui est très sympa avec ce Double Twist, c'est qu'il s'occupe de toutes les conversions, des protections, de tout ça, pour vous. Donc vous connectez simplement votre machine à votre ordinateur, vous faites un drag and drop, un glisser-déposer dessus à partir de votre musique ou de vos fichiers vidéo, et il va lui-même les convertir et les coller là où il faut sur votre smartphone ou votre lecteur multimédia. Et c'est quand même un truc assez pratique, parce que souvent les gestionnaires de médias des constructeurs, je pense à Sony ou à Nokia, c'est un petit peu une tannée. Donc allez faire un tour du côté de Double Twist. Si vous avez une machine comme ça, ça pourra vous être utile. Le site fantastique, c'est AppShopper et Yappler, d'ailleurs, je mettrai les liens évidemment sur les notes de l'émission, qui vous permettent de vous y retrouver un petit peu plus si vous avez un iPhone et vous cherchez des applications sympas, des apps sympas. AppShopper et Yappler indexent toutes ces applications de manière un petit peu plus claire et plus facile à chercher que dans l'iTunes Store, qui est un petit peu encombré, il faut l'avouer, en ce moment. Donc AppShopper.com et Yappler. Bon, ça ne parle que aux gens qui ont un iPhone ou un iPod Touch. Mais si vous n'avez pas ça, il y a aussi un petit site sympa, c'est le site de Mercury Men, qui est une web série qui vient d'être annoncée. Il y a un trailer sur mercuryseries.com. Là encore, le lien sera sur les notes de l'émission. J'ai trouvé ça super bien fait, c'est super beau et ça vaut vraiment le coup d'aller voir de quoi il s'agit. Corben, en bon geek reporter que tu es, t'as vu Mercury Men, le trailer ?
Non, pas du tout, non.
D'accord.
Non,
bon,
non. Bah, j'étais un peu débordé là cette dernière semaine et aujourd'hui
t'as eu d'autres choses à faire.
Non, par contre, tu parlais des applications iPhone là vite fait. Pour ceux qui ont un téléphone Android, il y a aussi un très bon site qui s'appelle androlib.com, androlib.com, qui diffuse en fait toutes les applications qu'on peut trouver sur Android, et c'est vraiment pas mal. Voilà, super. Si vous voulez jeter un œil.
Ah bah écoute, tu viens de doubler l'utilité de mon site fantastique du jour. Voilà. message à l'émission, un petit message rapide à MK90 qui m'a envoyé un logo un petit peu modifié de, pour l'émission, mais qui n'a pas entré son adresse email, donc je ne peux pas lui répondre. Je vais sans doute utiliser ce petit logo, merci beaucoup, parce que Jérôme de Scuds m'a promis un logo il y a quelques temps, mais il ne l'a toujours pas envoyé, donc j'en profite pour le dénoncer publiquement. Mais MK90, bah merci, je vais me servir du tien pour le moment, mais j'aimerais bien te remercier dignement, donc ton adresse email. Et autre chose, une autre chose dont je voulais parler, c'est ce débat Mac-PC qui a eu lieu sur le blog suite à la dernière émission, parce que Yann a eu le malheur de faire une plaisanterie un petit peu violente sur les Mac. Il a dit un truc qui n'a pas plu. Alors... j'y ai pris part un petit peu au débat. Je sais qu'il ne faut pas nourrir non plus ce genre de débats qui ne sont pas très productifs, mais j'aimerais quand même mettre les choses au clair une fois au moins. Moi, ce que j'en pense de cette histoire, c'est qu'il faut garder l'esprit un petit peu froid par rapport à nos préférences. À partir du moment où on s'attache tellement à une marque que quoi qu'elle fasse, on ne peut pas la critiquer, c'est qu'il y a un problème. Et c'est vrai, il y a des gens dans tous les camps, que ce soit Linux, PC, Mac, il y a des gens qui font ça. Peut-être un petit peu plus sur Mac quand même. Hein. Souvent, ils se sentent attaqués, un petit peu, ils sont un petit peu plus touchy, un petit peu plus piqués que les autres. Mais j'ai cet exemple régulièrement des gens qui sont amoureux de Sony, donc qui ne vont acheter qu'une PS3 alors qu'il y a une Xbox à côté qui marche super bien et qui a tous les jeux qu'ils veulent et que la PS3 coûte deux fois plus cher. Eh ben, ils vont quand même acheter la PS3 et si tu leur demandes pourquoi, ils disent « Ah bah parce que j'aime Sony ». Super. Regardons un regard un petit peu rationnel sur les choses. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que on essaye de rester objectif. Quand il y a des choses qu'on aime, on dit « moi j'adore ça pour telle et telle raison ». Quand il y a des choses qui nous plaisent moins, on va dire je critique cet aspect de ce produit pour telle et telle raison, on va argumenter. Mais si vous écoutez l'émission depuis un moment, vous savez bien que j'ai un iPhone dont je suis follement amoureux, je dors avec. C'est un produit Apple, c'est pas pour ça que je vais forcément adorer tout ce qui se passe sur Mac, même si j'aime bien le Mac aussi. Pareil, j'utilise Windows Vista, je l'aime bien et je sais que la moitié du monde, la moitié de la Terre le déteste. Bon bah moi, il fonctionne pour moi. Ce dont ils font se souvenir, c'est qu'il y a différents besoins dans le monde et différentes applications pour un même produit. Et ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas n'est pas forcément partagé par le reste du monde. Bon, ce sont des arguments un petit peu classiques, mais en l'occurrence, non, ici, on a moi qui suis plutôt PC, Corben qui est plutôt Linux et Loïc qui est plutôt Mac, n'est-ce pas, si je ne m'abuse ?
Oui, moi je suis 100% Mac.
Ah bah voilà. On s'entend bien.
Je crois que c'est une question d'habitude aussi. C'est-à-dire que bon, si t'as l'habitude d'utiliser un Mac, forcément tu vas trouver que le reste c'est de la merde. Si t'as l'habitude d'utiliser Linux, c'est pareil. Et Windows, pareil. Et t'as pas forcément d'argument pour ça en fait. Parce que t'as peut-être pas testé vraiment en profondeur Linux ou Windows ou Mac. Et du coup, quand t'es sur ton OS, t'as tes petites habitudes, t'es très bien sur ton OS. Et pour toi, il n'existe rien de mieux. Et même si on te met un Mac entre les mains ou on te met un Linux en disant vas-y essaye et tout, ça sera pas tes habitudes, ça sera pas ta façon de fonctionner, donc tu vas trouver forcément ça nul. Donc ça peut se comprendre quoi, que les gens se défendent ça sur des bases qui sont pas rationnelles comme tu dis, mais c'est juste parce que ça fait partie de leur quotidien et qu'ils peuvent pas changer d'habitude comme ça du jour au lendemain sur un autre truc quoi.
C'est pas
voilà,
faux.
C'est tout.
Bah, en deux mots, pardon Loïc, tu voulais dire un truc?
Non, rien à dire sur ce sujet-là. Je veux bien parler pour rien dire, mais là, j'ai pas de...
Non, je vais poser une question. En deux mots, si vous devez donner les avantages et les inconvénients de votre plateforme préférée, voir les choses de manière un petit peu rationnelle, Loïc, avantages et inconvénients du Mac, qui a priori, c'est la plateforme que tu préfères.
Ouf, voilà, j'en ai pour une heure pour t'expliquer à quel point j'adore ma plateforme Mac. Mais oui, c'est beau, ça crache très rarement. T'es pas obligé de rebooter. Je sais pas, ça fait 5 ans que j'ai pas utilisé un PC, sincèrement. Donc je sais pas si ça crache autant qu'avant. Mais quand je l'ai laissé, il fallait rebooter régulièrement. Tu rebootes une fois par mois sur un Mac. Si vraiment c'est une catastrophe, aucun problème de virus. Pas d'antivirus à installer. Écoute, sincèrement,
Des inconvénients, est-ce que tu en vois?
Bah pas vraiment, parce qu'il y a cette espèce de mythe comme quoi tout n'était pas dispo Sincèrement, peut-être les jeux, j'en sais rien, moi je m'en sers pas. Ouais. Et les grands hits sont toujours quasiment dispo sur Mac, World of Warcraft et autres. Donc pour moi, non, il y en a pas. En revanche, je vais me prendre un netbook et donc utiliser d'autres OS, pas forcément Windows, mais aussi Windows, parce que voilà l'inconvénient. Tiens, je vais t'en trouver un, c'est que quand tu es un développeur comme nous, et on a 76-77% des utilisateurs de Sysmic qui sont sur PC, et donc ça c'est un inconvénient, c'est qu'il faut surtout pas oublier de tester sur PC, parce que des fois tu te retrouves à faire des choses qui marchent très bien sur Mac et tu oublies 76% du marché.
D'accord.
Donc voilà, mais sinon non, c'est...
Corben, avantages et inconvénients de Linux?
Écoute, tous les mêmes avantages que Mac, voilà, ça plante pas. Ça peut être très beau si tu prends un petit peu la peine de le customiser. Inconvénient, il y a pas de jeu, bon ça forcément. Ce que j'adore, c'est surtout la deux aspects, c'est la rapidité de la chose, pas au niveau exécution, hein, parce que ça dépend de la puissance de ta machine, mais au niveau, tu vas installer un logiciel, tu tapes trois mots sur une seule ligne et il est installé, quoi. T'as même pas besoin d'aller sur internet le télécharger. Il y a des choses comme ça qui sont assez, enfin moi j'aime bien. Puis après il y a le côté bidouille que voilà, moi j'aime bien un OS où j'ai rien à faire, un petit peu, tu vois, pour jouer, pour bidouiller, pour explorer des choses.
Tu peux rentrer dans le cœur de l'OS et échanger.
Ouais, c'est ça, mais bon après ça c'est mon côté j'aime bien mettre les mains dans le cambouis et je pense qu'avec avec Mac il y a de quoi faire aussi, puisque de toute façon c'est sur une racine Unix aussi, donc Mac si tu abandonnes les icônes, tu peux tout faire en ligne de commande. D'ailleurs, j'ai déjà un peu touché Mac, j'étais un peu paumé, je suis resté cantonné à la console et j'ai réussi à faire plein de choses.
Plutôt Windows, d'utiliser l'interface graphique.
Windows, ouais, voilà, c'est ça, ouais, plutôt que d'utiliser l'interface graphique. Et Windows, j'aime bien Windows, mais c'est vrai que maintenant que je me suis déshabitué de Windows, j'ai beaucoup de mal, quoi, de devoir double-cliquer sur un truc, de faire suivant 50 000 fois et de rebooter pour installer un soft, ça me gonfle.
D'accord. Donc, bon, ouais. Moi, pour parler de Windows, évidemment, l'un des avantages, c'est le prix, hein, une machine qu'on généralement coûte un peu moins cher si elle est sous PC, enfin, si c'est un PC qu'un Mac. Linux, c'est encore un petit peu autre chose. Les jeux, hein, les jeux sont généralement plus présents sur PC que sur les autres plateformes. La quantité de logiciels, c'est quelque chose qui est important aussi. Et comme je le disais, moi, l'un des arguments que donnent les fans de Mac souvent, c'est oui, sur PC, vous avez 14 applications qui vont faire les choses à moitié. Sur Mac, il y en a une qui fait les choses bien. C'est pas forcément totalement faux, mais ce qui est vrai aussi, c'est que parfois on a des besoins très spécifiques, et souvent mon expérience, c'est que sur PC j'avais le truc qui me convenait un petit peu plus. Et ce que je retiens moi de toute notre conversation là, c'est que on a beaucoup plus entendu parler là, comme je le disais tout à l'heure, de besoins individuels que davantage d'une plateforme en particulier. Du moins c'est mon impression. Donc voilà, c'est sur celle-là que je resterai. Et c'est une discussion que je voulais avoir une fois, on va pas la refaire à tous les coups parce que sinon on s'arrête jamais. Je conclurai avec cette phrase de Kim Zhu sur le blog qui nous a dit « Mac versus PC, ça dépend de besoins et des envies, mais certains ne connaissent pas les leurs, c'est pas faux. Quand j'ai écouté tes podcasts, je pensais que tu étais sur Mac tellement ils étaient bien faits, mais le PC le fait aussi bien visiblement, donc j'avais tort. Merci Kim Zhu, tu mets tout le monde d'accord, c'est très gentil de ta part. » iTunes, on va vous remercier une fois de plus d'aller sur iTunes. Vous voyez comme quoi on adore Apple. Moi, je suis fan. iTunes, donc, il y a aujourd'hui 140 avis sur l'iTunes Store pour notre petite émission. Donc, le rendez-vous tech, vous allez sur iTunes, vous recherchez, vous allez sur la page et vous laissez un avis. Ça nous aide à avoir un petit peu plus de visibilité. C'est très gentil de votre part. Fou11 nous a dit... Clairement, le meilleur podcast high-tech, des sujets de qualité sans laisser les non-technophiles sur le côté. Bref, un must. Merci Patrick. Et moi, je dis non. Merci à toi, Fou11, de nous écouter.
Il va falloir changer de chaussettes hein, pour en faire entre tes chevilles.
Il y a Cédric qui nous a fait nos petits jingles, nous a fait aussi un petit jingle que je passe pas souvent sur les commentaires iTunes, mais je vais le passer là, tiens, on va écouter ce qu'il nous a dit, c'est assez, assez marrant, si j'arrive à le lancer sur mon vieux PC pourri, sur lequel j'ai le stream à côté.
La séquence des commentaires positifs sur iTunes. Mais dis donc Patrick, n'y a-t-il que des commentaires positifs ?
Oui, voilà. Donc, effectivement, je crois que j'ai... Mais n'allez pas mettre des commentaires négatifs. J'allais dire une connerie. J'allais dire, s'il y a des commentaires négatifs, je les lirai aussi. En fait, non. Je vais pas le faire parce que sinon, il n'y aura plus que ça. Voilà, donc merci à tous. Avant de nous quitter, je vais remercier encore une fois nos deux intervenants. Donc, Corben, où est-ce que les gens peuvent aller sur le net pour avoir un petit peu plus d'infos sur toi ?
Sur corben.info.
Corben.info, le site de l'actualité geek. Je commence à avoir un petit peu marre du terme geek, je t'avoue. C'est un petit peu galvaudé comme.
Non, mais... Oui, non. Oui, oui. Bon, oui, oui, non, mais c'est parce que c'est repris
bah ouais, des fins
commerciales un peu partout et que le geek a un portefeuille, donc le geek est très ciblé en ce moment, voilà.
Mais en tout cas, si vous voulez un site sympa avec plein d'infos tous les jours, c'est corben.info. Et sur Twitter, bien sûr, on va parler de Twitter.
Corben, twitter.com/corben.
K-O-R-B-E-N. Loïc,
oui,
toi, c'est Sismic.
Sismic.com pour utiliser Twitter en version web-based, enfin sur le web depuis une semaine. Sinon, de télécharger notre desktop qui approche 2 millions de téléchargements et qui permet de gérer Twitter et Facebook sur un seul logiciel. Et sinon,
je recommande, j'approuve.
Merci Corben.
J'en ai testé plein en fait et Sismic est vraiment excellent. Moi, je fais pas mal de veille avec et j'adore. Je suis un gros fan. J'ai pas encore testé la version web, mais la version desktop est terrible.
Voilà un testimonial inattendu qui me fait plaisir.
En plus, je comptais faire le mien en plus parce que j'allais dire Loïc. Bon, il est obligé de dire qu'il est bien de toute façon parce que c'est son produit, mais moi-même, je l'ai testé aussi Sismic Desktop et il est très très bien quoi. Donc.
C'est gentil, on a 10 000 téléchargements en ce moment et sincèrement on se défonce pour l'améliorer. On vient de lancer une nouvelle version, on va avoir une release encore dans quelques jours. Et ça vous permet d'avoir Facebook et Twitter au même moment, puis aussi pour faire de la veille. Comme je disais en introduction d'émission, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment l'outil idéal pour gérer une communauté sur Internet. Et sincèrement, on fait que démarrer. Et c'est la version web, Corben, tu vas voir, c'est très léger.
C'est ce que j'allais dire, la version web est vachement intéressante, et en particulier le mode d'affichage avec une ligne par tweet qui fait une sorte qui ressemble à une sorte de boîte de réception Gmail, qui est très bien
pensée.
Absolument,
on a lancé ça la semaine dernière, on a eu énormément de très très bons retours, notamment Jack Dorsey qui est l'inventeur de Twitter, qui a tweeté que c'était le meilleur client Twitter sur le web, ce qui est quand même une bonne remarque aussi. Et on s'éclate en ce moment parce que les gens qui s'en servent visiblement comme vous, j'en suis ravi, sont très contents de s'en servir, ils passent leur journée parfois. Donc voilà, sismic.com/app, A2PP, si vous voulez avoir le web, mais sinon c'est dispo directement sur sismic.com. Et pour me suivre, moi, c'est facile, c'est facebook.com/Loïc et twitter.com/Loïc, mais c'est en anglais par contre.
Ouais, mais c'est les auditeurs seront évidemment heureux de travailler leur anglais. Bah, je veux dire, moi, les gens qui me suivent ont droit à beaucoup d'anglais aussi, donc ils ont l'habitude. J'espère que vous irez aussi voir ce que fait notre ami Loïc. Et moi, bien sûr, sur Twitter, c'est NotePatrick. Le site, c'est lrdv.fr. L'adresse email, c'est tech@frenchspin.com. On vous remercie tous d'être là. Merci à la chatroom. Merci à Loconox, Markor, qui ont été nos modérateurs aujourd'hui. Et Seredwin et Magico qui ont dû partir. Et on vous dit donc rendez-vous dans 2 semaines. Ciao, ciao!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.